7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
Anastasie Tudiège.
Bonjour les voisins et les voisines, j'espère que vous portez bien. C'est en tout cas avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve aujourd'hui pour parler retrouvailles et séparations, positions et symboliques, à l'abri des regards. Alors non, il ne sera pas question de sexe, mais de lit aujourd'hui les voisins et de comment on le pratique. Collés serrés, avec ou sans les enfants, en même temps ou chambre à part, qu'il se transforme en théâtre ou en ring, en abri ou en bureau, le lit et la manière dont nous l'abordons dit beaucoup du couple. Et le sujet passionnant est bien plus profond qu'il n'y paraît. Et c'est l'objet de la dernière étude du sociologue Jean-Claude Kaufmann qui est notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Les voisins, votre vie avec votre lit nous intéresse. Vous l'aimez comment, votre lit? Grand, petit, décoré avec soin, spartiate? Et puis surtout, comment le partagez-vous? Racontez-nous comment dans votre couple on utilise le lit au 33 1 84 22 71 71.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On va faire du boum.
Sur RFI.
Du show.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures, aller vers l'inconnu.
Tu rates, tu meurs. 1000 regrets aux absents. 7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Et c'est maintenant qu'on découvre votre nouvel ouvrage, Jean-Claude Kaufmann, Un lit pour deux. Le sous-titre, c'est La tendre guerre, un livre publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai hein, quant à traquer nos petites manies pour nous décrypter en tant que société. Vous avez analysé notre rapport au sein, aux casseroles, au linge aussi dans le couple et aujourd'hui le lit.
Oui, alors des fois je fais des petits tours à l'extérieur,
oui.
Il y avait les seins nus sur la plage, mais la plupart du temps je suis dans la maison, dans la famille, alors je fais le tour des pièces, effectivement j'avais étudié les casseroles, les repas, mais là comme je suis quand même sociologue de la vie quotidienne et du couple, il y a quand même un endroit tout à fait stratégique, c'est la chambre et puis le lit. Mais que se passe-t-il dans le lit? Alors, on se dit, bah, dans le lit, c'est pas compliqué. On dort, peut-être parfois, de temps en temps, on fait l'amour, et puis voilà. Non, non, non.
Il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça.
Et on va découvrir que vraiment, le sous-titre a un vrai sens.
Oui, alors, il y a tendre, hein,
Il y a guerre aussi.
Oui, alors, surtout en ce moment, faut relativiser.
Et il faut insister sur le côté
tendre. C'est plutôt une petite guérilla sur base d'agacement, parfois de souffrance quand même. Quand on n'arrive plus trop à dormir, que le sommeil se dégrade, et que le partenaire à côté, il dort comme un bébé, en plus des fois peut-être qu'il peut faire un petit peu de bruit, qu'il ronfle, etc. Donc d'abord on peut devenir très jaloux de son sommeil.
Et d'agacerie après, en agacerie, ça peut creuser.
Oui, alors là il y a toutes
les
petites tactiques connues. On peut commencer par exemple donner un petit coup de coude, ou pincer un petit peu.
Pour ce qui est de la méthodologie, gardez-nous tout. Vous nous donnerez les trucs que vos sondés, que les couples que vous avez étudiés vous ont donné pour pallier toutes ces difficultés ou tous ces agacements, comme vous le disiez, rencontrés dans le couple. Je vous propose maintenant, à vous Jean-Claude Kaufmann et à vous les voisins et voisines, d'écouter un couple qui a bien voulu nous ouvrir la porte de leur alcôve. Neila et Quentin, la trentaine, ont emménagé il y a presque un an dans un joli petit appartement du 11e arrondissement de Paris. Un 3 pièces avec 2 chambres, une pour Aristide, leur bébé de 3 mois, et une chambre pour eux qui donne sur cour leur petit nid d'amour. Alice Milo les a rencontrés pour nous.
Attends Aristide, attends bonhomme.
Allez, on est précisément dans notre chambre, c'est un lieu important de la maison. Il y a un lit qui prend beaucoup de place parce qu'on est quand même à Paris dans un 42 mètres carrés, donc il y a beaucoup d'espace dévolu au lit. On a vu un peu de sobriété, donc des murs blancs. Moi je ne peux pas me séparer des livres, donc il y a Neila non plus d'ailleurs. Donc il y a une bibliothèque comme dans le salon.
Moi j'ai toujours pris l'habitude de lire en dormant. J'adore partir avec mon livre. Et donc souvent je pars en laissant la lumière allumée. C'est Quentin qui scoltine toujours l'éteignage de lumière.
Toi, tu veux, oui, parce que Neila veut s'endormir avec la lumière. Moi, j'ai horreur de ça. Je veux m'endormir dans le noir le plus profond et dans le calme. Il y a un rituel, quoi. Je pense qu'on rentre, on est habillé ici. Maintenant, on arrive. On se dessape, tranquille, on met le pyjama. Mais on se couche toujours ensemble. C'est très rare, en fait. Oui. On n'est pas un couple, il y en a un qui va se coucher, l'autre qui reste. C'est vrai qu'en règle générale, on se couche en même temps. On a déjà 2 coussins. Il y en a un qui est dur, c'est Neila. Et un qui est mou, c'est moi. Donc.
Quentin, il prend les 3/4 du lit. On a un lit qui est relativement petit pour nous deux, parce qu'on aime bien s'étaler tous les deux. Donc, à chaque fois, c'est une guerre. Parce que lui, il veut s'étaler et moi, je veux ma place et je veux la place pour mon livre. Et Quentin me dit, mais non, mais je me rapproche pour te prendre dans mes bras. Je lui dis, non, 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 tu te pousses et en vrai, tu me prends dans tes bras.
Quand je dors tout seul, en fait, rapidement, je m'emmerde, quoi. Ah, c'est la présence, hein, je sais pas, c'est le matin, au réveil. Voir quelqu'un dormir, c'est tellement beau. Et puis, il y a une énorme confiance, hein, quand même. Quand on dort avec quelqu'un, c'est qu'on a une confiance absolue en cette personne. Parce que quand on dort, on est vulnérable, on est à la merci de l'autre. Quand on dort, on est quelqu'un d'autre, on se connaît pas. Moi, j'ai toujours voulu me filmer et voir ce qui se passait toute une nuit. Mais c'est 8 heures que j'abandonne à la nature.
Quentin, il a un peu quelques problèmes respiratoires et par exemple quand il est enrhumé ou quelque chose comme ça, il a beaucoup de mal à respirer et d'une manière générale déjà il ronfle. Donc ça a été très dur au début. J'essayais de le faire bouger un peu pour qu'il arrête de ronfler et s'arrêtait 2 secondes et ça repartait la seconde d'après. C'est insupportable au début. Et au bout d'un moment, je me suis habituée à dormir avec ses ronflements. Et Naïla, elle ronfle ?
Oui, ça lui arrive.
Oh, je suis une princesse, je ne ronfle pas, mon amour. Non, 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 non. Des fois, Quentin, il me prend mes pieds, il veut me blottir contre lui, alors que moi, j'ai besoin de sortir mes pieds pour les aérer. Donc, c'est un peu dur parce que lui, il est en train de me ramener vers lui. Et moi, j'essaye de sortir pour vous laisser mes pieds respirer. Donc, c'est un peu dur quand t'as une personne qui veut t'enfermer tes pieds. Mais non, moi, je veux qu'il respire mes pieds.
Finalement, c'est la contradiction entre son petit confort personnel et l'envie de partager un moment avec l'autre.
C'est ça. Il y a des règles.
Ouais, qui sont jamais respectées. Moi, je pète...
On ne pète jamais dans le lit conjugal.
Oui, et
c'est la règle.
Dans ma famille, on ne retient jamais un pet.
En tout cas, les conflits chez vous sont enrobés de beaucoup de tendresse.
je pense que si le lit devient un conflit, pour moi, c'est un couple qui est gangréné. Et si au lit, on n'arrive pas à avoir un moment de tendresse, c'est que vraiment, le couple doit avoir vraiment de vrais soucis. Et nous, ça a toujours été un endroit où on a réussi à s'apaiser.
Donc, on arrive dans ce lit, on se couche dos à dos, parce qu'évidemment, c'est le signe du conflit. On se met sous la couverture, on a chaud, on est bien, on se détend. On se regarde, on se dit, je vais quand même pas dormir fâché. Je vais quand même pas passer ce moment de paix fâché.
Ça nous est souvent arrivé, par exemple, des fois où il y a des conflits, où par exemple on a besoin de prendre des décisions, même s'il est 18h, et on est dans le salon, et Quentin me dit, il me prend par la main, il me ramène dans notre lit, mais vraiment c'est câlin, c'est l'intimité, il me ramène, il me prend dans ses bras, et c'est vrai.
Il y a un peu un côté zone franche, alors finalement, je sais pas, la magie s'opère, on se rapproche, voilà, le drapeau blanc se hisse, quoi.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Un reportage signé Alice Milo. Merci à elle. Jean-Claude Kaufmann, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Un lit pour deux, la tendre guerre. C'est, en fait, il s'agit d'une étude que vous avez menée au sein des couples et de leur rapport au lit. Quand vous entendez ce reportage, vous pensez quoi ? Le lit, une loupe du couple ?
Je regrette de pas les avoir interrogés.
Vous auriez aimé les avoir.
Oh
hein,
non, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Là, il y a tout. On peut passer toute l'émission peut-être sur leurs témoignages. Il y a tellement de choses à dire. On voit, il y a tellement de petits. On est très différents, extrêmement différents, même quand on croit être exactement les mêmes, très différents dans ces rythmes. Alors là, les rythmes, bon, ils se couchent à peu près en même temps, mais c'est à peu près le même point d'accord. Lui, il est très, il a envie de la câliner très souvent, d'être là, de se rappeler. Approcher, voire de l'utiliser un peu comme un doudou, hein, d'une certaine manière. Surtout, il lui a...
Mais je laisse pas faire.
Mais non, il lui attrape les pieds, quoi. Il a besoin de ses pieds comme d'un doudou. Et lui, il est très bien. Chacun cherche, il l'explique très bien d'ailleurs, sa position pour se relâcher complètement, une espèce de position idéale. Et des fois, on utilise un oreiller, la main sous l'oreiller, tout un tas de choses. Mais des fois, c'est le partenaire dont on a besoin. Avec tendresse, bien sûr, mais aussi parce que ça aide à être bien. Et lui, il a besoin de ses pieds, mais c'est un petit peu trop, donc elle dégage les pieds, donc c'est extraordinaire. Alors, il fait ça, il se rapproche, Mais en même temps, il en profite pour s'étaler un petit peu et prendre un petit peu d'espace. Et elle, elle dit quand même, elle arrive à faire avec cet espace. Ça, c'est la magie de l'amour qui nous transforme.
On sent qu'il y a beaucoup de concessions.
Oui, bien sûr. Alors, c'est plus que des concessions. C'est la capacité de la personne à ne pas être gênée. Par exemple, elle dit quand même, il y a un petit peu de bruit, il ronfle un petit peu, mais elle arrive à dormir
elle
avec
fait
ça.
Avec.
Elle arrive à faire avec, à ne pas être trop gênée. Par contre, quand il pète, là, franchement, là, ça va pas. Et lui, il dit, ben non, c'est la culture de notre famille. Il faut le bien-être absolu. Se retenir, on va être ballonné. Alors là, énorme question, là, difficile à ouvrir d'un certain nombre de couples.
Chacun
mais on peut aller jusqu'à ces détails.
Dans son foyer. Mais effectivement, j'imagine que vous avez rencontré ça beaucoup. L'une des choses que l'on découvre, l'une des grandes surprises de votre livre, c'est que, au fond, chaque civilisation a fait une place particulière au lit et au coucher.
Oui, alors le lit a été alors le lit, le coucher, parce que c'est pas toujours le lit. Hein, on peut dormir sur des tapis, sur des paillasses, des coussins, etc. Dans différentes civilisations, des hamacs,
en tout cas,
etc.
Cet espace où on se repose.
L'espace où on se repose, cette position allongée où on s'abandonne.
Et alors, c'est ce qui est étonnant. Les Romains, les Dogons, chacun a un rapport
particulier. Dans les histoires qui fondent les cultures, les sociétés, ce lit. Alors le lit peut rappeler aussi le lit de la mort aussi. Hein. Donc c'est la même position allongée. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui est extrêmement, extrêmement fort. Donc on trouve des tas de récits extrêmement importants qui mettent au centre le lit. Alors on l'a un petit peu oublié aujourd'hui. Ça apparaît comme un meuble ordinaire, un petit peu qui est un peu caché dans la chambre, dont on ne parle pas trop. On a oublié ça, que c'est un moment extrêmement important. On passe un tiers de sa vie, des fois plus, parce que parfois, il n'y a pas que la nuit dans le lit. On peut y travailler des fois dans la journée, y grignoter, y manger. Et à un moment, un lieu, encore une fois, extrêmement personnel et intime. Le moment où on doit réussir à s'endormir, où il faut avoir ce sentiment de relâchement.
Alors,
de
justement, ce
tout
moment,
à fait
cette intimisation du lit, oui. Je me demande si elle n'est pas finalement assez contemporaine, quand je pense aux Romains qui faisaient absolument tout allongé.
Oui, alors,
dormaient, mangeaient,
alors là, il faudrait faire le tour, mais alors là, l'heure ne va pas être suffisante, le tour des sociétés et des civilisations.
Mais il y en a, prenons-en quelques-unes, les Romains, par exemple, et
Rome,
les Bretons.
Rome, le lit, il est dans l'espace public, on y mange, mais c'est pas forcément le même lit que celui du sommeil. C'est un peu une civilisation du lit. Hein. Plutôt que des chaises, on a des lits hein, dans les classes dominantes à Rome. Donc c'est une manière d'utiliser le lit. Et les Bretons, vous voulez qu'on dise un mot des...
Absolument, oui. C'est lit magnifiquement ouvragé, très lourd.
Alors oui, alors ça permet de dire quand même que... en Europe, par exemple, la chambre séparée avec son lit matrimonial, c'est relativement récent. C'est un petit siècle pour la masse de la population, parce que dans les campagnes, au 18e siècle, au 19e siècle encore, c'est le régime de la pièce unique. Il y a une pièce unique pour toute la famille, et parfois, dans certaines régions, pour avoir un peu d'intimité, on va avoir les lits clos, par exemple, comme en Bretagne. Mais dans le lit clos, à l'intérieur du lit clos, dans tel lit clos, il peut y avoir le couple, mais dans tel autre lit clos, il y a le grand-père avec les enfants, quoi. Hein. Donc c'est des sous-groupes un petit peu...
C'est une autre pièce, une pièce.
C'est un peu une pièce à l'intérieur de la pièce. Alors, donc, chaque société a trouvé ses petits arrangements, mais aujourd'hui, ça devient un petit peu compliqué, parce que aujourd'hui, le couple est vraiment au centre. Le désir, l'envie d'aller vers l'autre, mais en même temps, et là c'est un peu contradictoire, on a envie d'aller vers l'autre, on l'a bien eu dans le témoignage, mais en même temps, on veut être soi-même avec son bien-être, avec son espace, et là ils ne sont pas tout à fait d'accord avec entre le réglage est différent, et c'est comme ça dans plein de couples. Quentin, lui, il aimerait bien être souvent un petit peu plus collé, et elle aime bien son espace, et elle aimerait bien en avoir un petit peu plus.
Et chez vous les voisins, comment ça se passe à vos téléphones? Dites-nous tout, 00 33 1 84 22 71 71. Dites-nous comment vous vivez votre lit. Tout de suite, la musique sucrée-salée de Julien Doré et Brigitte, c'est Abemus Papaye.
Littoral courbe, la mer est citron. Je ferme mon blouson sur la plage. Le vent des dunes balaye l'horizon, prenant nos poumons en otage. Something you left us on my bed.
Julien Doré et le duo Brigitte sur RFI dans 7 milliards de voisins où il est question de lit. On explore le lit, pas tant le lit sensuel que le lit comme théâtre ou ring ou espace tout simplement à vivre, Jean-Claude Kaufmann.
Oui, mais il y a aussi la sexualité, mais je traite pas trop, c'est pas le centre de... Et puis il n'y a pas un cloisonnement, il n'y a pas un moment où on dit on dort, et puis il y a aussi les moments petits câlins, tendresse. Très souvent, là on a vu dans le témoignage tout à l'heure, quand il se tourne le dos, ça veut dire qu'il y a
bon
un petit
signe.
Point. C'est pas bon signe, c'est que il y a une envie, un petit conflit, l'envie d'éloignement. Dans beaucoup de couples, ça signifie pas ça forcément. Beaucoup l'expliquent. Dormir en face à face, dormir en lacet, ça c'est bon pour les tout débuts. On arrive justement à se dépasser, c'est la magie de l'amour, à ne même pas sentir que l'épaule est ankylosée. Et puis après, on cherche un petit peu son confort, son bien-être.
Confort.
Donc chacun a un peu sa place. Parfois, c'est sa place en se touchant. Il y a tel couple, par exemple, que j'ai interrogé, il se tourne le dos tout en se touchant les talons. Quoi. Il y a comme ça plein de...
Il faut un point de contact et que le reste puisse être
un point de contact. Mais je disais donc que tourner le dos, c'est pas forcément de l'hostilité. Certains expliquent que si on est en face à face, il y a la respiration de l'autre, je ne parle pas de l'haleine, hein, mais la respiration et l'aspect un petit peu vivant du visage, alors qu'on cherche au contraire à s'isoler et débrancher. Mais ça fait un peu drôle de se tourner le dos, quoi. On a peur que ça soit un signe justement que ça ne va pas très bien. Donc juste avant, c'est très important, il y a deux temps. Le tourner le dos, c'est le deuxième temps. Et juste avant, il y a le petit rituel de tendresse. Un petit bisou, un petit câlin, un petit bonsoir ou un petit mot de tendresse, un petit peu plus fort.
Quelque chose pour se quitter.
Oui, et qui signale, on est aussi le couple et
voilà,
le couple tendresse. Et là, dans ce moment-là, alors souvent les femmes en demandent plus. Là, c'est l'inverse du témoignage qu'on vient d'avoir. Souvent les femmes en demandent plus. Elles aimeraient bien un petit peu plus de conversation aussi, confidence sur l'oreiller. On donne souvent cette expression. Les hommes se méfient un petit peu. Ils sont pas contre le fait de parler un peu, mais ils ont un peu peur que ça ouvre une vraie explication et qu'on mette sur la table, sur l'oreiller, un certain nombre de problèmes, que ce soit prise de tête au moment où justement il faut débrancher.
Il faudrait lâcher
prise.
Donc
ils ont un petit peu peur de ça, surtout que souvent ils sont souvent plutôt chauds alors que les femmes recherchent un peu de chaleur. Donc ils veulent desserrer un peu l'emprise, sauf dans un certain temps où ça leur donne des idées, ces petits câlins rapprochés. Et du coup, ça leur donne envie d'aller plus loin. Mais c'est pas ce que la femme avait demandé.
L'un veut du sexe et l'autre de la tendresse.
Oui, on n'a pas un petit panneau comme ça en disant c'est juste tendresse ou c'est sexe.
À la lecture de votre livre, Jean-Claude Kaufmann, on comprend que le point commun de tous ces couples, c'est l'infinie variété de leur réaction.
Moi, l'enquête, ça a été un voyage exotique. Un voyage exotique dans l'incroyable variété des manières de faire.
Alors justement, nous explorerons cette variété après le flash et vous nous direz si par exemple vous avez remarqué que les choses se subdivisent, les comportements sont divisés par classe sociale ou par espace géographique. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Pour le moment, chers voisins, vous aurez compris que nous explorons les lits, nos lits, comme on analyse nos rêves, pour mieux se comprendre. Le lit théâtre de nos non-dit, c'est le sujet du dernier ouvrage du sociologue Jean-Claude Kaufmann. On en parle, les voisins, jusqu'à midi avec l'auteur. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans votre lit? Quel rapport avez-vous à votre lit? Utilitaire, affectif, dépendant, indifférent? Dites-nous tout. Vos expériences sont les bienvenues au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans 3 minutes.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins se penchent sur un meuble pas comme les autres, le lit, ce que nous y faisons, ce que cet espace dit de nous, le couple et le lit, c'est le sujet de la nouvelle étude du sociologue Jean-Claude Kaufmann, une étude publiée aux éditions Jean-Claude Lattès, et Jean-Claude Kaufmann est notre invité aujourd'hui. Et puis vos histoires de lit, les voisins sont les bienvenus au 00 33 1 84 22 71 71, faites comme notre voisine Stéphanie à Brazzaville qui nous a appelé. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Anastasie.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Et vous n'êtes pas à Brazzaville, vous êtes à Libreville?
Non, je suis à Libreville.
Je vous prie de m'excuser.
Il n'y a pas de souci. Donc en fait, je venais témoigner par rapport au sujet
d'aujourd'hui. Alors dites-nous, comment vous gérez le lit? Comment dans votre couple ça se passe?
Comment gère le lit? Mon mari, il a souvent très chaud.
Oui.
Moi, je suis plutôt câline et donc j'adore de m'endormir dans ses bras. Donc, on a trouvé un compromis, c'est que il m'endort, il me berce, on va dire. Donc, je m'endors dans ses bras et ensuite, il va de son côté. Donc, c'est bon. Notre solution depuis 10 ans. Et on a toujours un petit point d'attache, on se touche les pieds ou les mains, enfin, toujours un petit contact quand même. Bien, chacun reste dans son coin tout de même.
Bon, vous avez trouvé un modus vivendi, vous avez trouvé votre code. Et ça a toujours été comme ça?
Avec mon époux, oui. Sauf qu'avec mon ex, c'était pas le cas. À chaque fois que j'essayais de me mettre dans ses bras pour m'endormir, pour lui, il fallait absolument que ça passe à autre chose.
C'était une invite. Il le vivait comme une invite, une provocation, une jolie provocation pour passer aux choses sérieuses.
C'est pas ce qui m'arrangeait le mieux. Des fois, j'avais juste envie d'être dans ses bras et malheureusement, ça virait automatiquement à autre chose. Ce n'est pas le cas avec mon mari, bien heureusement.
Bon, alors du coup, vous allez un peu dans le sens de ce que dit l'étude de Jean-Claude Kaufmann. C'est que finalement, la manière dont on se gère dans le lit, la manière dont on se partage l'espace et les relations dans le lit, est aussi une lecture de comment le couple fonctionne.
Tout à fait, tout à fait. Et on a vraiment trouvé notre point, en fait, et ça se passe très bien. Et c'est tout le temps comme ça, je m'endors dans ses bras, et ensuite il va de son côté.
Et c'est ce que dit votre voix, vous avez une voix très épanouie, bravo à vous d'avoir trouvé le bon code, Jean-Claude Kaufmann.
Oui, vous avez trouvé le mari idéal.
Hein. Voilà, il faut garder. Vraiment, hein.
Gardez-le, surtout, gardez-le. Parce qu'il faut trouver... Il faut trouver l'articulation entre le désir des uns et le désir des autres. Visiblement, dans votre premier couple, c'était un petit peu compliqué avec ce petit quiproquo entre tendresse et sexualité. Mais souvent, c'est un peu compliqué parce que on veut le moment couple et puis aussi pour s'endormir, avoir son aisance, donc avoir aussi en même temps son espace. Donc, puis on peut pas ouvrir une négociation en disant tu veux 30 cm de distance ou 40, etc. C'est pas possible. Donc tout ça, c'est intuitif, il faut le sentir et trouver dans l'accord des deux. Il faut que chacun soit à l'aise. Et là, visiblement, ça se passe bien, donc c'est que du bonheur.
Et là, vraisemblablement, chez Stéphanie, ça fonctionne. Bravo et merci de nous avoir fait partager ce joli témoignage.
Merci à vous et bonne journée.
Merci à vous aussi. Chanel, à Brazzaville, cette fois-ci, a aussi son mot à dire, un témoignage à apporter quant à ce que vous appelez, Jean-Claude Kaufmann, la tendre guerre. Bonjour Chanel.
Bonjour.
Comment ça va à Brazza?
Ça va, tout est calme.
Merci de vous joindre à la discussion. Alors, comment ça se passe pour vous?
Tout se passe à merveille. En ce qui me concerne, moi et ma conjointe, tout se passe bien. Dormir à deux n'a jamais été un problème pour moi. Au contraire, j'adore.
D'accord. Et donc, tout va bien?
Ouais, tout va bien. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait une semaine de cela. Quand il fait nuit, là, j'adore ça, quand on est sous les lits. On est sur le lit, on est sous les couvertures et tout. J'aime ça, surtout quand il fait froid, on est collés, serrés ensemble. J'adore.
Bah, donc c'est pas un mari que vous avez, c'est un doudou, c'est une couverture finalement, votre mari alors.
oui, un doudou, comme ça.
Ouais. Bon, écoutez, s'il ne s'en plaint pas, c'est que tout va bien.
Non, c'est moi qui me plains, c'est dans l'attention, parce que... il pète à chaque nuit, là, ce dernier temps, il pète grave.
Ah ben justement, c'est ce que disait Jean-Claude Kaufmann tout à l'heure. Il y a des négociations à mener. Alors qu'est-ce que vous pourriez conseiller ? Alors, je sais que vous êtes sociologue et pas conseiller conjugal, Jean-Claude Kaufmann. Mais que vous ont dit vos sondés sur le sujet ?
C'est pas toujours facile de parler. Chacun, c'est des questions. C'est un moment où on se relâche complètement, on s'abandonne, on recherche le bien-être et c'est pas facile de discuter. On est au cœur de l'intime C'est pas toujours facile
Chanel,
de discuter
de tout ça. Chanel, vous arrivez à faire comprendre à votre époux que bon, déjà, est-ce que ça vous dérange qu'il se laisse aller complètement comme ça?
En fait, au final, je trouve ça amusant parce que quand il fait nuit là, il fait froid et moi, j'aime être sur le lit avec lui, sur les draps collés. Là, je trouve ça.
D'accord.
Amusant.
Donc, vous préférez être collé à tout prix, quoi qu'il fasse, vous voulez être collé à lui.
À tout prix.
Bon.
Ben quand
Allô, oui. Nous vous écoutons.
Oui, je disais, quand il pète là, c'est là que je me retire, je ne pourrais pas être collée à lui parce que je trouve ça un peu gênant. Vous voyez ?
Bon. Donc là, on est dans des détails très 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 précis. Alors, mais ça arrive très souvent parce qu'il faut se retenir. Hein, pas quand il y a des gaz.
Mais est-ce que vous arrivez à lui en parler? J'imagine que peut-être dans l'immédiat c'est compliqué, mais pendant la journée, est-ce que vous arrivez à lui en parler en disant, écoute, ça me plairait assez que tu te maîtrises.
Bah oui, je lui dis ça. Bah il dit c'est à cause de la bière. Excuse-moi et puis tout. Bah, voilà.
Oui, puis derrière il y a une question, c'est est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut à tout prix se retenir dans tous les domaines ou c'est pas toujours facile si on a bu de la bière etc, s'il y a les gaz qui tournent dans le ventre, si on peut pas se retenir, il faut à chaque fois sortir de la pièce etc, ou est-ce qu'on est dans un lieu où on doit avoir le bien-être absolu, ou à ce moment-là est-ce qu'il faut pas avoir sa chambre un petit peu séparée le couchage?
Et que dirait justement on va demander à Chanel, que dirait votre mari Chanel si vous disiez, écoute, si c'est comme ça, peut-être c'est bien qu'on ait chacun notre chambre. Comment il le prendrait?
Voilà, je n'ai pas vraiment posé la question, on va savoir. C'est ça.
Mais
bon,
je pense que...
Je vais en parler quand même.
Vous faites comme vous voulez.
Je pense que Chanel ne le souhaite pas.
Non,
parce qu'elle,
vraisemblablement
elle,
pas.
Elle adore tellement être avec lui, collé, et elle arrive à accepter cette gêne qui peut être très forte quand même. Elle arrive à dépasser ça. Et là, on est au cœur du problème. Il y a toujours au cœur du lit la contradiction entre l'envie d'être avec l'autre au plus près et d'arriver à ne pas être sensible aux diverses gênes, au fait qu'il fait du bruit, etc. Et de l'autre côté, une attitude un petit peu plus individuelle. Je recherche avant tout mon bien-être. Il y a tel ronflement, il y a tel bruit, il y a le fait de bouger qui me gêne. Donc, je préfère avoir mon espace à moi. Et chaque couple essaie de gérer entre cette contradiction.
Merci beaucoup, Chanel, pour votre témoignage. Et puis, j'espère que vous trouverez une solution qui vous convienne à vous deux.
Ouais.
Belle journée à vous, Chanel. Belle journée à Brazza. On reste en Afrique centrale et on traverse le fleuve, tout simplement. On va en République démocratique du Congo, à Lubumbashi précisément, où Didier, c'est un homme cette fois-ci qui veut témoigner, Jean-Claude Kaufmann, les voisins. Et bonjour Didier.
Bonjour, allô, RFI.
Bonjour Didier.
Je voulais porter juste mon témoignage.
Vous êtes le bienvenu.
Il arrive souvent lorsque nous sommes au lit. Ok, merci. Lorsque nous sommes au lit avec la femme, souvent, elle cherche toujours à se cramponner à moi. Souvent, ça me dérange. Et parce que moi, j'ai l'habitude de dormir au bord du lit. Souvent, elle s'accroche à moi. Je me retrouve souvent quand je me réveille comme ça. Elle s'accroche souvent à moi. Et l'enfant aussi s'accroche à elle. Souvent, ça me dérange parce que moi, je suis toujours souvent. J'ai l'habitude de dormir au bord du lit. J'ai peur de tomber maintenant lorsqu'elle s'accroche souvent à moi.
D'accord, donc c'est un peu la famille, non seulement vous avez le poids de votre femme, mais en plus celui de l'enfant sur votre femme.
Oui, oui.
Et tout ça repose sur vos épaules. Intéressant, Jean-Paul Kaufmann. Jean-Claude Kaufmann.
Oui, donc quand on arrive au bord du lit, hein, là on menace de tomber, on se dit là il y a quand même une recherche d'espace personnel. Et si la pression est encore plus forte, il y a un désir un petit peu de fuite, et ça peut devenir un peu menaçant pour le couple. Et pour le bien-être du couple, il faut respecter le désir de respiration personnelle. Quand l'un des deux se sent un peu trop comprimé, n'a pas un peu son espace, ça va pas provoquer des bonnes choses. À partir du moment où il se sent bien avec son espace, il va avoir l'envie de revenir vers le partenaire.
Peut-être un peu plus dans le lit. Ouais. Didier, est-ce que vous savez pourquoi, vous avez une idée de pourquoi vous avez l'habitude de dormir au bord du lit? Ça a toujours été comme ça, depuis tout petit, ou bien c'est depuis que vous êtes marié?
Ça a toujours été comme ça. Je l'ai constaté, c'est l'habitude que j'avais pris quand j'étais encore étudiant. J'avais l'habitude de lire, lorsque je lisais, j'étais au lit, les cahiers en dessous des lits, maintenant je me couchais comme ça au lit, et puis j'étais en train de lire les livres, ou bien faire les cahiers, les notes. Alors cette habitude-là, je suis grandi avec ça, jusqu'à ce que je me suis marié.
Ah, alors du coup, le fait d'être marié ne vous a pas fait changer vos habitudes d'étudiant, c'est intéressant.
Ah oui, donc j'avais pas bien compris effectivement le témoignage. Donc ça, c'est passionnant, c'est extraordinaire. Mmh. Des fois, c'est des positions qu'on a pris dans l'enfance. Hein.
Oui.
Dans l'enfance, c'est terrible. La nuit, il y a des cauchemars, etc. Donc on a ces petits trucs, ces positions, des petites magies.
On a son rituel pour se protéger des monstres imaginaires.
Et on peut le garder très longtemps. Mais là, ça remonte. À la période étudiant, c'est très étonnant. Alors, c'est un peu comme aussi, il y a le côté du lit. Hein. On prend l'habitude d'avoir un côté du lit et des fois, on va le garder toute la vie. Mais là, c'est plus que le côté du lit, c'est cette position au bord du lit qui s'est installée un moment. Et on garde ça. C'est parce que, encore une fois, c'est ce moment de relâchement où on a besoin de ces repères, où on se sent complètement bien. C'est un peu la même chose comme avoir toujours la même place à table ou avoir besoin du même bol pour le petit déjeuner, etc. Dans ce moment de relâchement, qu'est le repas aussi. Donc, on a sa manière à soi. Ceci dit, normalement, quand on rentre dans un couple, tout ça est un petit peu bouleversé.
Un peu chamboulé, quand même.
Notamment parce qu'il y a l'échange avec l'autre, il y a le désir du corps de l'autre et tout ça, et le lit devient un autre lit d'une certaine manière. Donc là, c'est très intéressant de voir que ça a été plus fort, cette position, qu'elle est restée.
N'est-ce pas, Didier? Comment vous expliquez que, malgré votre nouvelle vie d'homme marié, vous restiez cramponné au bord de votre lit? On pourrait imaginer que ça aurait pu changer votre manière de dormir, non?
J'ai souvent changé, mais ça me revient toujours. Je ne sais pas, la cramponne aussi.
Bon, écoutez, si ça ne donne pas lieu à une guerre dans le couple et que madame ne vous en veut pas et que vous ne lui en voulez pas, ça va.
Bon, elle se demande souvent pourquoi c'est comme si tu es en train de me fuir, puis peut-être que je m'en suis dormi au bord là-bas, c'est comme si tu n'as pas besoin de moi, tu veux que je me fuir.
Eh oui. C'est bon, mais peut-être qu'elle devrait en faire autant, et peut-être qu'à ce moment-là, c'est vous qui vous accrocheriez à elle, sur le principe du « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis », je ne sais pas, il faudrait essayer. En tout cas, merci beaucoup pour votre passionnant témoignage, et puis belle journée à vous, à Lubumbashi, Didier.
Merci beaucoup.
Les voisins, un peu de musique, il paraît que ça adoucit les mœurs, je ne sais pas si ça adoucit le lit, mais tout de suite, en tout cas, c'est Fantasma par Fantasma. Fantasma, pas Fantasma, dans 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, on aurait pu intituler l'émission « Dis-moi comment tu dors ». Je te dirai quel couple tu es. Il est question du lit, envisagé, investi par le couple, pas tant sexuellement que dans ce qu'il dit des rapports de couple. Et vous êtes nombreux, les voisins, à avoir envie, et merci d'ailleurs de le faire, de témoigner de comment vous vivez les choses. On va tout de suite, on retourne au Gabon, à Libreville, avec le voisin Joseph. Bonjour.
Bonjour, Amélie.
Bonjour, Joseph. Alors, comment ça se passe pour vous?
Ah ben, ça se passe très bien.
Ah, ça commence bien.
À l'instar du précédent auditeur, là, j'ai aussi... moi, ça date depuis longtemps, parce que c'est depuis tout petit. J'ai mon côté du lit, c'est toujours au bord du lit.
D'accord.
Ça, je n'en demeure pas. Mais depuis que je suis marié, bon, il m'arrive de temps en temps de faire des concessions, de laisser ma femme le bord du lit quand elle en a envie. Par contre, il y a une chose qu'elle a apportée dans le couple, c'est qu'elle n'arrive pas à dormir si elle ne me touche pas avec son pied.
Mmh.
D'accord ? Donc son pied sur un de mes pieds. Du coup, moi aujourd'hui, j'arrive plus à dormir si je sens pas son pied sur moi.
Bon, alors vous vous êtes contaminés mutuellement en besoin de contact. C'est plutôt une bonne chose, ça, Jean-Claude Coffin.
Oui, mais j'ai plusieurs témoignages comme ça dans mon livre, d'avoir son espace après le petit rituel de tendresse ou plus, hein, si affinité. Chacun va un petit peu dans son espace, mais un petit contact. Des fois, un petit contact de temps en temps, ou parfois le petit contact un peu tout le temps. Et il y a même un témoin, c'est Rachida, si je me souviens bien, qui explique ça et dit c'est notre fluide.
Oui.
On sent le fluide qui nous ramène ensemble et nous permet de nous détendre. Pour bien nous détendre, il faut pas seulement qu'on soit bien individuellement, mais qu'on soit bien à deux en se touchant comme ça. Et même, ils en parlent entre eux. Quand ça va pas trop bien dans leur tête, qu'ils ont eu des problèmes, ils disent au partenaire, donne-moi un peu de fluide. Et ils se touchent un petit peu, mais c'est pas un câlin, c'est juste un petit contact. Et c'est comme s'ils sentaient en eux la force du couple qui les rassure et qui les enveloppe un petit peu plus.
Joseph, vous reconnaissez dans cette définition de Jean-Claude Kaufmann?
Oui, tout à fait.
Cet échange de fluide, ce besoin d'échanger un fluide qui permet de passer dans les bras de Morphée tout à fait tranquillement?
Tout à fait, à tel point que, bon, généralement, c'est madame qui se couche la première.
Ah, c'est donc, elle qui donne le...
Voilà, elle se couche la première. Donc moi, quand je viens me coucher et que je passe 5 minutes, 10 minutes, je me rends compte que, bon... elle n'a toujours pas placé son pied. À ce moment, c'est moi qui le fais. C'est devenu comme... c'est une deuxième nature. Quand je ne l'ai pas, je ne dors pas.
Et ça fait combien de temps que vous avez ce rituel?
Depuis qu'on est ensemble, ça va bientôt faire 10 ans.
Ah oui, donc c'est parti pour durer, là. Merci beaucoup pour votre beau témoignage. Et puis continuez vos histoires de pieds. Voilà, vos histoires de pieds ont l'air de fonctionner. Merci. Donc voilà, vous donnez des recettes aussi à ceux qui nous écoutent, c'est très bien.
Bravo.
Bonne journée aux voisins de Libreville. J'en profite pour saluer cette belle ville gabonaise. Allez, on va dans l'est de la Guinée avec un dernier voisin, je pense. Il s'appelle Barry. Bonjour, Barry.
Bonjour, 7 milliards de voisins. Bienvenue à Sangaré, la ville la plus proche de la Guinée.
Nous sommes ravis d'y être grâce à vous. Alors dites-nous tout. Vous dormez avec une conjointe, vous?
Non, je dors avec mon petit frère.
D'accord.
En fait, la nuit, comme actuellement c'est l'hiver, la température chute beaucoup la nuit.
Oui.
Et il fait qu'ici mon frère. Donc c'est une guerre de couverture qui se pose ici au lit.
Ah, carrément. Guerre de couverture, vous dites?
Guerre de couverture, oui. Pour couvrir de la fraîcheur.
Alors, qui gagne?
Alors là, celui qui dort à dernier, c'est lui qui gagne.
Et alors, pour le moment, généralement, c'est plutôt vous, c'est plutôt lui. Comment ça se passe? Vous vous arrachez la couverture pendant la nuit?
Oui, s'il se réveille en pleine nuit, il trouve qu'il est découvert et puis il retire la couverture pour bien se couvrir. Et moi... Si j'arrive à me réveiller après...
Le froid vous réveille et vous reprenez la couverture.
Voilà, voilà.
Mais dans ces conditions, puisque c'est la guerre, est-ce que ce n'est pas mieux de dormir séparés, Marie?
Bien sûr, c'est normal de dormir séparés, mais vous savez, en Afrique, quelque part aussi, c'est pas facile, quoi.
D'accord. Donc vous préférez continuer de vous faire la guerre, mais ça a l'air d'être une guerre plutôt gentille. Vous lui en voulez pas au sourire dans votre voix. Vous n'en voulez pas à votre frère?
Non, je la veux pas. Elle était fille, c'est comme ça. Ça se passe bien.
Bon, c'est votre façon de vous aimer.
Oui, oui.
Oui, il y a tous les degrés de la guerre, hein, parce que là, manifestement, là, c'est quand même pas trop violent.
Oui, c'est
et puis même à premier degré, ça permet de raconter l'histoire et d'en rire également. Oui. Tant que c'est à ce niveau-là, ça va.
Exactement, c'est ça. La journée, on se raconte ce qui s'est passé et puis chacun éclate de rire.
Donc, tant que c'est comme ça, ça va, il n'y a pas de problème. Évidemment, après, si le fait de tirer, il y a tirer et tirer la couverture, mais si c'est d'un seul coup violent et qu'on découvre complètement l'autre et qu'on rentre dans une crise, alors là, c'est un autre niveau.
Il y a des choses qui vont pas très bien pendant la journée. Vous en feriez autant, vous feriez la même chose. J'imagine que vous avez prévu de vous marier, Barry.
Ben, j'ai 25 ans, j'ai fini les études et puis j'attends un bon emploi pour pouvoir me marier.
Et alors, comment réagirez-vous si votre femme vous tire la couverture comme le faisait votre frère?
Ben là, je ferai tout pour qu'on soit séparés chacun dans sa chambre.
Oh, dites donc. Alors d'accord, votre frère, vous acceptez et votre femme, vous la répudiez de la chambre et vous l'envoyez à l'autre bout de la maison.
Voilà.
C'est intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre bonne humeur. Et merci de nous avoir fait visiter, à travers votre voix, la belle ville de Sangaredi.
Merci beaucoup, je vous remercie.
Au revoir, Barry.
Au revoir.
Alors, Jean-Claude Kaufmann, le témoignage de Barry est très intéressant. Alors, bien sûr, il n'est pas en couple, c'est un couple fraternel. Mais il a amené une chose, c'est le dont on n'a pas encore parlé, c'est chambre à part. Il y a des couples, 60% des nouvelles maisons aux États-Unis auront deux chambres matrimoniales.
Oui. Alors,
c'est une tendance.
Souvent, oui, c'est une tendance très forte. Alors, souvent pas au début du couple. Hein. Et je pense que Barry, là, c'est parce que il rêve de son confort pour bien dormir. Mais une fois qu'il va rentrer dans son histoire d'amour, il va avoir envie d'être au plus près et de passer.
Et en même temps, vous avez des couples qui se construisent comme ça.
Oui.
En
alors, ça commence à développer. C'est plutôt aux alentours de la cinquantaine que là, c'est en train d'exploser complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a un renforcement du couple à ce moment. Là, les enfants partent du foyer, il y a une chambre des fois qui se libère. Parfois, il y a une pré-retraite qui commence, donc il y a une présence en face-à-face beaucoup plus importante, et chacun se marche sur les pieds complètement. Et ce qui jusque-là était encore acceptable, le mouvement du partenaire ou le petit ronflement devient à ce moment-là complètement intolérable, et il y a le désir plus fort de faire chambre à part pour sauver le sommeil, pour sauver le couple. Et on se rend compte à ce moment-là que c'est extrêmement difficile d'en parler avec le partenaire. Il ne comprend pas, surtout s'il est bon dormeur. Ça se trouve, il a même pas conscience qu'il ronfle. Il se sent rejeté, il sent que c'est une attaque contre couple, il va se murer dans le silence, et des fois, c'est le début d'une crise conjugale, alors qu'il faudrait traiter ça d'une manière tout simple, autour de cette question de sommeil. Comment bien dormir ensemble? Il y a 1000 possibilités, on a vu toutes sortes d'arrangements, oui. Se toucher les talons, etc. Faut arriver à trouver le bien-être individuel dans le bien-être du couple.
Alors, est-ce que le sociologue que vous êtes a observé que selon les classes sociales, selon les couches sociales, les arrangements diffèrent?
Alors, il y a plein de... je disais, c'est un voyage exotique.
Oui.
Un voyage exotique, pas en faisant le tour du monde. Hein, un voyage là d'une...
C'est le tour de la société.
Oui, d'un couple à l'autre. Il y a 1000... Chacun invente ses petits rituels avec ses particularités, avec des différences selon les régions,
c'est pas une
les classes sociales.
De classe sociale.
La plus grosse différence est une question d'âge et de génération. Parce que dans les nouvelles générations, on part du lit. Le lit est le centre du monde. Déjà dans la maison des parents, on investit son univers dans la chambre, et plus encore que dans la chambre, dans le lit, où on regarde son téléphone, ses tablettes, où on travaille, où on mange très souvent. Et quand on va être célibataire, surtout les femmes, on va continuer comme ça. Il y a un surinvestissement du lit. Quand on va rentrer un couple, il va falloir composer, parce que ce lit qui est surinvesti, dans lequel on mange, on passe son temps dans la journée, et il va falloir faire avec le partenaire et réinventer un nouveau lit. Mais là, c'est vraiment au niveau générationnel que de plus en plus, c'est plus marqué le fait que le lit n'est pas cantonné dans la chambre avec le simple fait de dormir et de faire l'amour. Non, il y a de plus en plus d'activités.
Ça devient un bureau.
Ça devient un
nouveau
parce
salon.
Parce qu'on a besoin d'être dans dans des meubles un petit peu bas, un peu souples, enveloppants pour se sentir un peu câliné face à cette société si dure. Donc le lit est de plus en plus surinvesti chez les jeunes aujourd'hui.
Et il est surinvesti aussi bien d'un point de vue de l'investissement financier, par exemple. On investit, on met beaucoup d'argent dans la décoration, dans le. Vous avez l'une de vos sondées qui préfère même ne pas aller quasiment, qui préfère ne pas aller au lit plutôt que de défroisser ses.
Ah oui, alors là, dans les rituels, alors là, il y a toutes sortes de choses. Donc il y a cette femme, elle, c'est son bonheur de faire un lit, elle passe un temps fou qui est tiré à quatre épingles, et le soir, elle ne veut plus le démolir, quoi. Hein. Donc là, ça va.
C'est un petit peu un extrême,
mais encore une fois, il y a des cas, des situations très différentes et un investissement, y compris financier, effectivement. Hier, je faisais une petite émission, un petit tournage de télé, c'était dans un magasin, donc j'ai discuté avec le gérant, donc j'ai appris plein de choses, et il me disait, oui, il y a une explosion de la demande des lits séparés, des chambres séparées aujourd'hui, et j'entendais pas ça il y a 4-5 ans, on me demande le lit pour monsieur et le lit pour madame, et c'est pas du tout le même, dur, mou, etc. Chacun cherche un petit peu son propre univers.
Un lit pour deux, la tendre guerre, c'est le sous-titre du nouveau livre de Jean-Claude Kaufmann. Ça se lit comme un roman et je le recommande chaleureusement aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci infiniment d'être venu nous parler de ce que vous avez rencontré. Merci à l'équipe 7 milliards, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Jonas Malès-Solartz et Pauline Leduc. Demain les voisins, nous nous retrouvons pour la dernière fois le vendredi, c'est éducation et nous réfléchirons à comment accompagner au mieux les élèves en difficulté. À demain, portez-vous bien.